Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut mes petits sorciers, comment ça va?
Chaque épisode, une nouvelle intro spéciale Léo.
C'est bonsoir. Petit sorcier, non?
Ah oui?
Ça va Manuel?
Ça va et vous?
Oui, ça va Léo?
Ouais, attends, j'ai un cheveu sur mon micro. Oui, ça va.
Bon.
J'avais des problèmes.
Des problèmes existentiels.
Ouais, que j'arrive pas à régler d'ailleurs. Donc si vous entendez ça tout le long du podcast, je suis désolé.
Insupportable.
Aujourd'hui, on a un sujet qui nous est apporté par Manuel.
Et il a des points. Mais il a dit pas beaucoup.
Manuel qui est parti visiblement.
Non, il a mis son œil à la place de la bouche sur le micro.
Je suis content de nous apporter un sujet un petit peu là.
Je suis super content.
T'es ravi?
Bah en fait, il va être meilleur que la moyenne.
Tu nous as dit mot pour mot, ils vont être tellement contents les petits loulous.
Ah oui?
Oui.
J'ai dit ça moi.
Oui, tu nous as dit ça.
D'accord.
On parle de quoi?
On parle d'état d'esprit, parce qu'on parle très souvent des qualités requises pour faire quelque chose. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez de l'état d'esprit qu'il faut avoir en général pour aborder les choses. Et je me suis intéressé au travail de quelqu'un qui a étudié notre état d'esprit et essayé de faire une corrélation entre l'état d'esprit que tu t'emploies à avoir pour démarrer des choses et les résultats.
Il n'a pas étudié le nôtre autour de la table?
Non.
Non, parce que je suis en train de me dire, on a des moyens quand même pour ce podcast. D'accord, c'est une étude globale.
C'est une étude globale.
T'as lu un livre? C'était...
J'ai lu plein de livres.
C'est vrai, dans ta vie.
Oui.
Comparé à moi, ça c'est sûr.
Mais c'est issu d'un livre qui s'appelle Mindset,
okay.
The New Psychology of Success, que vous pouvez lire, de Carol Dweck.
Le lien sera dans la description.
Ah bon?
Oui, parce que je mets un lien, je m'assure de votre business, je mets un lien affilié Amazon.
Ouais, enfin, on voit jamais les thunes.
A priori, c'est de ton business dont tu t'assures, en fait, parce que moi, je suis pas au courant.
T'as reçu quelque chose, toi, Manuel? Moi,
rien
jamais.
Du tout.
Ça fait 6 ans qu'on fait ce podcast, j'ai reçu un centime.
Donc voilà, et je trouvais ça intéressant. Alors, évidemment, je vais pas vérifier, mais je crois que l'auteur est américain. Je sais plus s'il est anglais ou américain, mais je crois qu'il est américain. Il y a un côté un peu caricatural, comme dans plein de livres business américains. Son point de départ dans sa réflexion, c'est de dire qu'il y a 2 catégories de personnes, évidemment.
Okay.
Comme dans les films américains. T'as vérifié?
Non, j'ai pas trouvé.
Ah, bon, c'est tout.
J'ai pas eu le temps de
tout
trouver.
Tout est normal. Et donc, il dit qu'il y a les gens qui ont un état d'esprit évolutif et des gens qui ont un état d'esprit fixe. Avec des gens qui considèrent qu'ils sont dans une espèce d'apprentissage permanent,
mmh.
Et des gens qui considèrent qu'ils sont nourris de certitude.
Ok. En conscience.
En conscience.
Okay.
Ils disent, voilà, moi, ma conviction, c'est ça, et genre, tu peux m'amener ce que tu veux, ça va pas changer.
Ok, d'accord. Ok, intéressant.
Moi, j'aurais trouvé subtil qu'ils disent qu'on peut passer d'un état d'esprit évolutif sur certains sujets à un état d'esprit fixe sur d'autres.
Mmh.
Mais c'est pas vraiment ce qu'il dit dans son livre. Il dit plutôt que tu es ou l'un ou l'autre au global et que ça ne dépend pas des sujets.
Bah, les auteurs souvent ils favorisent la compréhension facile, hein.
Ne serait-ce que pour amener d'abord vendre des livres faire en sorte que les gens qui lisent le truc comprennent et vulgarisent.
Si t'écris tout ton pitch et que tu dis bon alors c'est plus compliqué que ça en réalité, ça marche pas, ça se vend beaucoup moins bien.
Bah, ça va être compliqué d'en vendre, ouais. Et est-ce que vous considérez que vous avez un état d'esprit évolutif ou fixe?
Les deux.
Bah voilà, ça démarre bien.
Ça y est, c'est la merde.
Les deux, pour le coup, il y a des trucs sur lesquels je suis évolutif parce que j'accepte et j'ai envie d'y consacrer du temps pour bien comprendre les sujets, etc.
Non, mais hormis ta sexualité.
Et il y a des sujets sur lesquels je pense que je suis fixe. Parce que
ça, c'est
je considère que c'est pas aussi important. Et j'ai pas envie d'y consacrer beaucoup de temps de cerveau. Donc, à mon avis, les deux.
Moi, je dirais que
tout n'est pas que sexe et argent, Léo.
Oui, c'est vrai, Manuel.
Moi, je considère que je suis évolutif.
Bah oui, ça nous aurait
étonné.
Vous en
pensez ça, quoi?
Bah, on l'espère tous. Ouais.
ça nous aurait étonné. Bah, moi, je pense que je suis parfait. Et vous?
Non, mais dans le sens où. Je pense que je suis jamais persuadé de quelque chose.
Moi, je pense que tu passes d'une période fixe à une autre.
Ok.
Ce qui fait pas de toi quelqu'un d'évolutif.
Ouais.
Je pense que t'as beaucoup de certitudes, mais c'est par trimestre.
Ah bon?
Ouais.
Je considère que je suis jamais la même personne d'un trimestre 1 au trimestre 2.
Passe d'une certitude à une autre. Oui, c'est vrai. Cette certitude existe jusqu'à ce qu'il y en ait une nouvelle.
Mais ça peut être une forme d'évolution. Hein.
Toi, Manuel, tu considères que tu fais partie de laquelle?
Ben, contrairement à ce que les gens pensent, je pense que je suis très adaptable.
Ouais.
Si.
Mais pas dans le business. Moi, je dirais pas dans le business.
Et tu penses que les gens pensent l'inverse?
Oui.
Oui, dans le business, c'est sûr. Dans le business, on se dit, si tu fais pas la façon de Manuel, tu feras jamais, en fait.
Oui, mais la façon de Manuel, elle est très évolutive.
Ouais, mais je pense qu'il est, plus flexible en perso qu'en pro.
Bah ça, après, je sais pas, moi, j'ai pas...
Non, mais exemple, quand on avait fait la vidéo...
C'est bizarre ce qu'il dit, là.
Non, quand on avait fait, tu sais, la vidéo dans le van pour tester Starlink et tout, à l'époque, je me souviens, j'ai reçu des messages de clients qui m'avaient dit, c'est une blague où, genre, Manuel a vraiment dormi dans un van. Et j'étais en mode, mais Manuel... Tu peux l'emmener à la ferme ou dans un jet privé, et il sera content s'il est avec des gens qu'il aime bien.
Moi, je suis plus content dans un jet privé.
Oh, tu penses que c'est vrai, ça?
Enfin, vous n'auriez. Enfin, si ça n'avait pas été vous, jamais je ferais ce contenu. En fait.
Voilà, mais donc, t'es pas superficiel sur le côté.
Plus adaptable que les gens ne l'imaginent.
Voilà.
Non, mais alors, attends, on va quand même. Moi, parfois, je pense que mon rôle, c'est de vous faire un peu redescendre sur terre quand vous dites des conneries. Ça t'est arrivé combien de fois dans toute ta relation avec Manuel? De le voir dans un camping.
Dans un camping, non, mais j'ai fait d'autres trucs où j'aurais pas pensé voir Manuel dans cette situation. On allait cueillir un week-end, on allait cueillir des fraises.
Bah ça,
c'est pas du tout à l'inverse de sa personnalité.
Mais non, mais quand, oui, mais Manuel, tu l'imagines soit chez lui, soit au bureau en train de travailler, soit dans un jet ou aux quatre coins du monde. Tu te dis pas que je vais lui proposer d'aller cueillir des fraises ce week-end, il va être content, quoi, tu vois.
C'est pas vrai, j'adore la cuisine.
Oui, mais après,
s'il
faut passer dans la boue pour aller chercher les fraises, le problème c'est qu'il paye quelqu'un pour le l'emmener jusque là-bas.
T'as raison.
C'est là qu'il est pas hyper flexible.
Mais dans le business, je le vois pas trop évolutif. Je vois fixe. En même temps, c'est ce qui fait. Enfin, c'est parce que t'as.
Il y a des trucs sur lesquels je suis pas prêt à faire de compromis.
Ouais, et en même temps, j'ai l'impression que on change de logiciel tous les 6 mois et tout. Tu vois, pour moi, c'est une certaine adaptabilité en fait. Il y a plein de trucs sur lesquels tu peux changer d'avis et t'acceptes de passer à autre chose et de tester des trucs.
Ah oui, mais ça n'empêche pas d'être ouvert d'esprit.
Ouais, mais même dans ta stratégie et tout, je trouve que ça évolue tout le temps parce que tu te nourris de ton entourage, de ton environnement. Mmh. Donc oui, moi je te trouve plutôt évolutif.
Ah.
Je vais vous donner la méthode pour que Manuel soit évolutif.
Ah.
Quand on est dans les équipes de Manuel. Dans les équipes en général, évidemment on se parle. T'as des meetings toutes les semaines, etc. auxquels j'avais pu participer. Et souvent, quand il y a des choses qu'on veut changer, on dit à l'un et à l'autre qu'il faut que ça revienne à un moment aux oreilles de Manuel. Et au bout de la troisième, quatrième fois, Manuel va commencer à se dire « Bon, t'es pas la première personne qui m'en parle. Soit ça me fait vraiment chier et je les envoie tous bouler et ils vont bien comprendre d'aller se faire foutre et plus jamais ils vont m'en parler de leur vie. Soit ça commence à m'emmerder parce qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas vraiment ce problème-là, mais qu'il faudrait régler parce que si tout le monde me fait remonter que ce truc-là, ça leur conviendrait mieux, il faudrait que je cherche. » Donc c'est assez rigolo parce que d'un point de vue d'équipe, on le sent. Et en même temps, je pense que c'est comme ça que Manuel, du coup, se concentre uniquement sur les choses les plus importantes.
Bah oui.
Si c'est Manuel qui devait se poser la question de « Ah, mais là, ça te gratouille, ça va pas marcher », jamais t'avanceras. Donc,
ça te gratouille.
Dans le sens où dès qu'il a, tu vois, un grain de sable, c'est pas Manuel qui va s'en occuper. Bah, par contre, il est vraiment à l'écoute des équipes. C'est ça qui est ouf.
T'es forcément plus à l'écoute quand il y a plusieurs personnes qui viennent te parler d'un truc.
Ouais.
C'est qu'il y a un symptôme quelque part.
Je considère que les gens sont des thermomètres.
Ouais.
C'est assez bien ça.
Planté dans des tonnes de problèmes.
Ok.
Ou d'opportunités.
Oui.
C'est toujours pas ce à quoi on pensait.
Donc, selon l'auteur, il y a des gens qui considèrent que leurs qualités sont telles que, de toute façon, ils éclairent chaque situation de leurs qualités. Et donc, du coup, ça les enferme dans un état d'esprit plutôt fixe.
Ouais.
Et ce que je trouve, je me souviens, quand je lisais ce passage-là du livre, je pensais à tous les formateurs marabouts du web, qui eux vont un cran encore plus loin, puisqu'ils se... C'est pas qu'ils ont des qualités, c'est qu'ils se persuadent d'en avoir.
Fake it till you make it.
Voilà, bon, moi, ça, on en a parlé mais déjà dans d'autres épisodes. Ça m'exaspère au plus haut point, mais... Je pense qu'il y a tout un tas de gens qui disent se préoccuper des autres et de vouloir les former ou les coacher et qui devraient commencer par eux-mêmes.
Comment tu le repères ? Parce que en général, ces gens-là ont un ego qui va avec et donc ils s'en rendront jamais compte vraiment tout seuls.
C'est juste que, en fait, tu te rends compte que leurs convictions sont vides.
Ouais.
Leur conviction est une série de phrases. Mais qu'ils ont lu ailleurs, partiellement, et ils se sont forgés une espèce d'univers qui n'est fait que de poncifs.
C'était un CEO qu'on a interviewé récemment, je ne peux pas donner le nom là parce que ce n'est pas encore publié, mais vous comprendrez très vite qui me disait qu'il en avait ras le cul des journalistes parce que c'était tous les mêmes, surtout dans des sujets un peu complexes où il faut quand même avoir fait des études d'ingénieur et tout ça. Il te dit, ils me sortent tous des phrases vraiment bien construites qui sortent d'une phrase de scientifique d'un article. Puis dès que tu leur poses une ou deux questions, il n'y a plus personne. Donc ouais. Il en avait marre d'accepter en fait des interviews parce qu'il se disait, mais à part répéter ce qu'il y a en ligne, ils se disent tous journalistes spécialisés dans. Et puis dès que tu grattes, il n'y a plus rien. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est quand même difficile de le détecter parce que tu vois des vrais success stories qui naissent sur TikTok, sur des formats courts et tout ça. Donc. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'admiration pour le vide, quoi.
C'est surtout que quand tu grattes un peu, tu te rends compte que c'est pas des success stories.
Ouais, j'allais dire que ça va assez vite quand même à détecter. Hein.
C'est des succès d'audience. Mais des succès d'audience, ça veut pas dire des succès.
Ouais, mais je pense que nous, on est dans l'industrie, donc on le voit.
Ça veut dire qu'il y a des gens qui écoutent. Mais je pense que c'est très important et responsable de le dire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent quelque chose que ce quelque chose a de la valeur. Ou a du sens, où il est important de le suivre, où il faut absolument s'inscrire dans ce mouvement-là. Non. Souvent, la majorité n'est pas celle qui fait le plus de sens. Le principe démocratique, c'est le moins mauvais qu'on ait trouvé. Pour s'acheter la paix, pour qu'il n'y ait pas la révolution tous les quatre matins. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui est le plus intelligent. Parce que souvent, ce qui est le plus intelligent est le moins accessible. Ce qui est le moins accessible fait le moins d'audience. Et donc, du coup, c'est pas populaire. Et on est dans un système qui confond la popularité et le succès.
Après, tous ces points-là, et dans le sujet du mindset, je pense que ça doit t'aider aussi à comprendre que le succès est vu surtout sur le long terme. Tu peux ne pas adopter tous ces points-là et être un vrai connard et réussir... Enfin, combien il y en a qui réussissent des boîtes pendant quelques mois et encore quelques années, ils font des grosses levées de fonds, après tout s'écroule, ils se barrent et ils refont quelque chose d'autre. Mais ceux qui ont vraiment réussi sur le très long terme, en général, c'est ces points-là qui sont quand même ancrés, quoi.
Et moi, je trouve que après, il aborde, en fait, il parle des états d'esprit fixes et ensuite il aborde évidemment les états d'esprit évolutifs et il parle d'une notion que je trouve intéressante qui est ton rapport à ta contradiction personnelle. C'est-à-dire qu'il développe un propos sur le fait que tu n'aies pas peur de te contredire ou te dédire.
Ouais, ça c'est difficile à l'ère des réseaux sociaux. Parce que quand t'as dit un truc, t'as pas envie de passer pour un con et dire l'inverse trois semaines plus tard.
Ben, je trouve que c'est dommage.
Ouais, je suis d'accord.
Parce que le principe de l'apprentissage continu, c'est justement de te dire que tu vas être un tout petit peu... moins con que la veille. Et donc, à certains moments, à force d'être cycle itératif comme ça, un peu moins con que la veille, tous les jours un peu plus, il peut arriver que tu changes d'opinion. Et qu'un point de vue que tu as défendu à un moment donné ne soit plus le même point de vue que tu défends aujourd'hui. Et donc, le droit à s'auto-contredire ou à changer d'opinion ou ne pas avoir peur de contredire ton moi du passé ou ton moi d'il y a quelques mois, je trouve que c'est un signe de courage.
Et c'est surtout au-delà des contenus qu'on publie, etc., c'est même quelque chose à faire, je pense, dans votre entreprise. Si vous êtes manager ou vous avez un poste avec des gens dont vous êtes responsable, bah, allez leur dire « Je me suis gouré, il y a 3 mois je vous ai fait faire ça, vous étiez contre et j'ai quand même voulu suivre cette voie-là, je pense que vous aviez raison, on va travailler là-dessus. » Et voilà pourquoi est-ce que j'ai changé d'avis et que vous en tiriez tous un apprentissage. Mais vous foutiez de ma gueule au début, mais c'est vrai que c'est un truc que je fais complètement en live. Le format live m'a vachement aidé là-dessus, quoi.
J'ai foutu de ta gueule sur quoi ?
Au début, quand tu disais t'as une croyance jusqu'à ce que t'en aies une nouvelle.
C'était pas du foutage de gueule,
non, c'est vrai.
C'est 100% vrai.
C'est vrai.
C'est que tu passes d'une certitude à une autre. T'es jamais dans une dynamique de te remettre, de te poser des questions. En général, t'as des certitudes.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors attends, je comprends pas.
C'est comme un circuit automobile s'il y avait que des lignes droites.
Bah non, si je change du coup d'avis, c'est que je me pose des questions.
Pour moi, c'est que on t'a fait une remarque ou alors on t'a proposé un truc différent.
C'est un circuit automobile carré.
Et oui, c'est exactement ça. C'est plus un virage. C'est-à-dire que c'est pas des virages que tu prends, c'est une totale...
Attends, j'ai une réflexion, par exemple, où il y a un truc que j'aurais mal fait ou qui est pas bon. Je vais pas me poser la question de pourquoi je l'ai mal fait ou qu'est-ce que je devrais améliorer. Je vais juste me dire, ok, ça je le fais plus. Du jour au lendemain, c'est ça que tu veux dire ?
Bah, disons que il y a pas longtemps, il y a un produit tech qui a été annoncé.
Ouais.
Pour toi, c'était la fin de l'iPhone.
Ouais.
C'était pas une potentielle nouveauté, c'était la fin de l'iPhone. Tu vas de certitude en certitude. Et demain, je le sais très bien, je l'ai dit dans ce podcast, tu diras que c'est de la merde.
Ouais, mais je pense que mon problème, c'est la façon dont je raconte les histoires. Parce que...
Ce que tu dis, Léo, c'est que tu es... c'est de la radicalité.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Tu es un intégriste radicalisé.
C'est hyper violent.
Bah, c'est ce que tu lui dis.
Oui, c'est...
Je comprends.
Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est je parle pas d'édito... Je pense que c'est ça aussi dans ta vie.
Ok.
Mais ce qui n'est pas...
C'est ma personnalité.
Ce qui n'est pas grave du moment que ce n'est pas juste une seule ligne toute ta vie.
Et que tu n'égorges personne.
Mais je pense que quand tu changes, c'est radical.
Ok.
Et alors ici, une petite étude qui a été faite, je parle de l'auteur, qui est intéressante, qui a été faite sur les enfants. C'est des cobayes volontaires non rémunérés. Et qui tente à démontrer que plus tu dis aux enfants qu'ils sont intelligents, plus ils ont tendance à développer un état d'esprit fixe et à refuser les challenges.
Ouais.
Parce qu'à refuser l'échec.
Parce qu'ils sont pas dans le doute aussi.
Ah ouais, ok. Pourtant, on pourrait penser que ça développe la confiance en soi, etc. Mais pas du tout.
Ouais, mais justement.
Ah ben, ça fait surtout, ça stigmatise l'échec. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui est élevé dans l'idée qu'il est intelligent et qui réussit tout le temps, sa plus grosse crainte, c'est qu'on arrête de lui dire ça. Donc, c'est d'échouer. Or, la première source d'apprentissage, c'est d'échouer.
Okay.
Si tu n'échoues jamais,
bien sûr.
T'apprends pas vraiment, en fait.
On disait quoi quand t'étais petit, Manuel ?
Conforme. Pardon ?
On disait quoi quand t'étais petit ?
Bah, déjà, on le disait Monsieur Diaz.
Non mais vraiment, t'as été éduqué comment ? C'est intéressant parce que vu que les gens connaissent de plus en plus ta personnalité, c'est intéressant de s'intéresser à ton éducation.
On me disait, c'est pas des choses qu'on dit, Manuel.
Non, on t'a parlé très vite comme un adulte, toi, quand t'étais petit.
Oui, oui.
Ok.
Mais au-delà de l'échec, pour moi, ce qui apprend le plus, c'est la peur de l'échec. C'est ça qui te drive. C'est le fait de pas avoir envie d'échouer. Si tu penses que t'es hyper intelligent, qu'on te dit que tu réussis tout, etc., tu n'as pas peur de l'échec. Donc, inévitablement, je pense qu'au bout d'un moment, tu vas échouer. Parce que tu es dans une confiance qui ne te permet pas d'atteindre un niveau suffisant pour la tâche que tu es en train de faire.
Oui.
Moi, je sais que mon moteur principal, c'est le doute. 100%. C'est le fait que je ne sois jamais content de ce que je suis en train de faire, que je me pose toujours des questions sur ce que je suis en train de faire, sur la qualité de mon travail, sur ce que les gens attendent, etc. C'est 100% le doute qui fait la qualité du résultat que j'ai à la fin.
Tu veux dire que le doute t'habite ?
Absolument.
C'est important de l'assumer. L'auteur cite un autre exemple qui est le CEO de GE, General Electric, et qui s'appelait Jack Welch. Et donc, il est arrivé dans la boîte en 1980 et la boîte valait 14 milliards de dollars.
La honte.
C'est pas nul, hein. Et il a étudié la personnalité de ce gars et il dit, voilà, c'est un des gars qui a le plus transformé GE, mais justement, par rapport à ce que disait Léo, c'est un gars qui est connu pour douter et qui inspecte chaque partie de l'entreprise et qui se dit, est-ce qu'on peut pas faire mieux, qu'est-ce qu'on peut améliorer, tu vois, qui est dans une espèce d'amélioration continue et de doute et de dépassement. Il a quitté la boîte 20 ans plus tard et elle valait 490 milliards de dollars.
Pas mal.
On est passé de 14 à 490. Putain. Alors, il cite que cet exemple. Est-ce que on peut, sur la base de cet exemple, se dire que les gens qui ont un état d'esprit qui est plus évolutif, qui est plus dans le doute permanent et l'amélioration continue, sont plus successful que les autres? Il faudrait faire des études à plus grande échelle pour... je comprends que ça sert son propos, mais il n'en cite pas d'autres.
T'as compris que c'était pas toi, Léo, hein, qui avait 490 milliards. C'est OK. Hein.
Pourquoi, Jean-Bouba?
Parce que non, t'avais les mêmes personnalités, donc je voulais juste m'assurer que ce soir, demain, tu reviens bien au travail, quoi. T'as pas gagné encore...
J'ai que 14, c'est nul.
Non plus. Non, t'as toujours pas.
Mais ça sert à rien, cet exemple, alors, si c'est pas moi.
Voilà. Mais je trouve que c'est intéressant. Et en fait, après, il fait un parallèle aussi avec les sportifs, en disant que les sportifs qui sont pétris de certitudes sont ceux qui évoluent le moins.
Ben, bien sûr.
Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a quand même plein de CEO. Quand tu les regardes comme ça, tu te dis, eux, ils ont un mindset fixe, quoi.
Mais parce qu'ils ont travaillé là-dessus.
Un Steve Jobs, il m'avait pas l'air évolutif.
C'est de la com, mais il arrivait déjà pas à choisir une table basse. Donc
c'est
si
vrai,
tu veux,
c'est vrai. Il mettait pas de meubles.
Je pense qu'il avait quand même beaucoup de questions, beaucoup de doutes, et il avait beaucoup de conversations pour arriver à des certitudes.
Ouais.
Mais je pense que c'est important d'arriver à une certitude au bout d'un moment, parce que si tu veux produire du résultat, il faut finir par avoir des certitudes. Mais elle doit être nourrie par du doute.
Et tu dois accepter que c'est une certitude momentanée.
Ouais, complètement.
C'est ta certitude du moment. Et que ton travail peut t'amener à en changer.
Ouais.
Pas pour des questions de mode, hein, mais juste parce que tu continues à travailler le sujet et que tu te rends compte que finalement tu peux affiner ton point de vue.
Et tu peux être complètement à côté de la plaque.
Ben, bien sûr. Après, il aborde un autre sujet qui dit qu'on passe énormément de notre énergie disponible à acquérir des compétences et très très peu à coacher notre état d'esprit.
Okay.
C'est-à-dire plus sur les hard skills et moins sur les soft skills, en fait. Et son point de vue, c'est qu'on devrait coacher ton état d'esprit et moins coacher tes compétences. Parce que tes compétences, finalement, c'est juste de la data, en fait. Ce que tu sais, bon, tu le sais ou tu le sais pas, mais si tu le sais pas, tu peux le trouver.
C'est le problème des livres de développement personnel. C'est que si tu tombes dans la lecture de dizaines, de centaines de livres de développement personnel, mais que tu n'appliques jamais ce que tu as appris, ce que tu as lu, tu peux le noter dans un Notion, etc., tout ce que tu veux, ça ne te servira jamais à rien, puisque tu ne les as jamais appliqués, c'est jamais rentré dans ton système, et ton état d'esprit, lui, n'a pas du tout évolué.
C'est le confronter à la réalité, ce que tu veux dire.
Absolument.
Et je trouverais intéressant d'avoir plus d'offres. Alors peut-être que je me sens pas concerné, ou alors je ne vois pas ces contenus et ils doivent exister certainement quelque part, mais plus d'offres sur le coaching de ton état d'esprit et un peu moins d'offres sur le coaching de tes hard skills, en fait, de tes connaissances.
Pourtant, quand tu le dis comme ça, j'ai l'impression que tes hard skills, ils veulent dire quelque chose. Tu mesures là tout de suite ce qui se passe, ce que tu sais faire, ce que tu peux faire, etc. Alors que tes soft skills, tu les travailles, mais que moi, j'ai l'impression que c'est un peu du bullshit de me dire, on va travailler sur ton état d'esprit. Bah, d'abord, je vais faire, t'es gentil, je vais voir le résultat, puis après, je verrai ce que j'en pense, quoi.
Bah, voilà. On y est.
Bah oui. Bah, c'est ça que je comprends pas. Donc toi, tu as envie que je pense à quelque chose que j'ai pas encore fait.
Non.
C'est pour bien comprendre. Non, mais c'est pas pour.
J'ai envie de, que tu comprennes comment tu penses. Ou pas.
Ok. Ok. Pour que je puisse m'auto-contredire quand je vais commencer à prendre une décision qui serait peut-être plus une habitude ou une croyance fixe, il faudrait que je puisse me contrer à ce moment-là en me disant « Non, attends, c'est parce que tu sais que tu réfléchis comme ça et que tu fais ça qu'il faudrait que tu fasses pas ça ?»
C'est parce que tu es ça que tu penses ça.
Ok.
C'est la différence entre une pensée et une espèce de réflexe et une réaction.
En fait, tu veux plus que je t'envoie de SMS, quoi.
Ah non, mais ça fait longtemps. Mais
c'est pour ça. En fait, c'est pour ça. En fait, Manuel, là, il est en train de me coacher pour se dire peut-être qu'à la fin de ce podcast, il réfléchira sans m'envoyer de
SMS. C'est une séance psy, là ?
Non.
Ah, parce que moi, je veux pas payer. Hein.
Ah bon ? Bah, tu peux pas guérir si tu payes pas.
Guérir de ?
De
moi-même ?
De la maladie qu'on va te découvrir.
Ah, d'accord, très bien. Ah, c'est
plusieurs, même, je pense.
Maladie mentale ? J'ai une maladie mentale ?
À mon avis, t'en as plusieurs.
J'ai trop de flow, je pense.
Ça dépend à lequel des Léos on parle.
Ah, peut-être que ça, c'est une maladie mentale, t'as raison.
Et donc, concrètement, toi, Manuel, ça t'arrive de te dire « Tiens, là, je vais travailler sur qui je suis.
Bah, » Bah, tout le temps.
Mais comment ? Attends, ça, moi, j'ai besoin... Tu me connais, j'arrive pas à être abstrait.
Bah, c'est pas
comment
abstrait.
Comment tu travailles sur qui tu es ?
Bah, tu te dis « Tiens, ça, est-ce que je pense ça pour ces raisons-là ou pour ces raisons-là ? » Est-ce que je pense ça parce que mon prisme socioculturel, c'est ça, parce que je suis né à cet endroit dans le monde, parce que j'ai été éduqué comme ça, et parce qu'on m'a filé ces convictions de base, et parce qu'ensuite j'ai construit mes convictions comme ça, et que j'ai eu ce moment-là dans ma vie et ces carrières-là dans ma vie? Ou est-ce que je regarderais la situation différemment si j'étais tout autre?
Et avec plutôt une que d'envoyer un message à Emmanuel, tu peux parler avec ChatGPT, je pense.
Ah, je le fais de temps
bien.
En temps.
Ça, c'est bien. Bah, continue.
Toi, Léo, tu le fais ?
Non. Enfin, moi j'adore débattre sur Twitter pour cette raison-là.
Parce que t'as vraiment un point de vue complètement externe.
Je confronte mes opinions à des gens que je rencontrerai jamais de ma vie. Et j'adore ça. J'adore voir comment les gens réfléchissent.
Alors, je sais pas si sur Twitter, ils réfléchissent beaucoup.
Ben, tu t'es confronté à des trucs quand même où tu te dis putain, c'est vrai que j'aurais jamais pu imaginer.
Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui réfléchissent pas.
Ben non, mais dans la vie aussi.
Ah oui, mais ça je confirme.
La différence sur Twitter, c'est que tu le vois. Ça, parce que normalement, tu parles pas à ces gens.
Bah, c'est que tu peux les muter surtout.
Oui, c'est vrai.
C'est que j'ai jamais osé répondre sur Twitter à quelque chose de contraire.
T'as jamais répondu à un tweet ?
Bah, de contraire, je pense pas beaucoup, non. Ah, parce que je me dis, oh là, ben, quand ça va pas dans mon sens, je me dis, oh putain, je vais me faire chier. Je vais devoir le convaincre.
Toi, c'est ce que tu préfères, Léo.
C'est là que le jeu commence.
Viens, j'essaie.
Bah, viens, j'ai pas besoin de venir, j'essaie. Derrière toi.
Je peux essayer.
Mais c'est là où c'est le débat bien. Commence. Donc, c'est
trop bien, c'est rarement productif, hein, mais c'est vraiment très cool.
Ah, donc ça t'apporte quelque chose ou pas à la fin ?
Du bonheur.
Ouais, mais pour ton ego, pour...
Ah non, ça m'apporte vraiment quelque chose, parce que...
Parce que tu dis que c'est pas productif.
Je crois que mais ça dépend, mais je crois que j'en parlais dans le dernier podcast. Ça m'aide à comprendre comment les gens réfléchissent, les arguments qu'ils utilisent, etc. Et si, en général, je parle de tech, quand même, sur Twitter, je débat de tech avec les gens. Et derrière, ça va avoir une répercussion dans la façon dont je traite et dont j'explique les sujets. Parce que ça me permet de prédire à l'avance les remarques que les gens vont me faire dans les commentaires. Et je préfère les avoir sur Twitter parce que je peux y répondre en direct que les avoir dans les commentaires sous une vidéo YouTube alors que j'aurais pu intégrer cette réponse à l'avance dans la vidéo. Donc, okay. Personnellement, ça m'est productif. Pas toujours, mais ça m'est productif.
Bon, c'est ta petite distraction entre deux vidéos.
C'est ma petite babale, j'aime bien.
Oui, voilà, là je préfère. Là, j'achète. J'achète l'idée. Ben voilà, travaillez votre état d'esprit.
Ok.
C'est bien, on peut bosser sur ses compétences, on peut bosser sur... C'est important aussi, hein. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit.
Mais concrètement, comment tu fais là ? Tu te lèves le matin, tu dois travailler ton état d'esprit, qu'est-ce que tu fais ?
Ben, en fait, je pense qu'il y a plein d'opinions qu'on construit et qu'on accumule qu'on ne remet jamais en cause. Mmh. Par exemple, un exercice que j'aime beaucoup, qui font beaucoup en droit, c'est défends une opinion et puis défends l'opinion contraire.
Ouais. Ah, ça, c'est un truc que je demande beaucoup. Quand j'écris un truc dont je suis absolument certain, je demande à ChatGPT de faire l'argumentaire inverse, opposé. Et parfois, ça apporte de la nuance. C'est-à-dire, parfois, il me convainc, ce bâtard. Et j'aime bien.
Bah, je trouve que c'est un très bon exercice. C'est
intéressant. Ok.
Et maintenant, vous pouvez le faire en audio. On l'avait testé dans un live ChatGPT via l'application. C'est gratuit. Ça tu peux bien, lui parler. Ouais. Ça marche vraiment super bien. Et tu peux prendre l'habitude plutôt que de prendre un réflexe d'appeler ton associé, une personne ou autre pour te dire ah, il faut que je lui parle de ce truc-là alors que tu vas l'emmerder. Prends ChatGPT, c'est vrai. Tu seras impressionné. T'as vu comme je me remets vite en question, Manuel ?
On a pris un virage 180 degrés, c'est bon.
Allez, à bientôt, hein ?
Bah oui, bientôt.
Bon, c'est ça la fin, pue la merde.
Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre ?
Ça pue.
C'est
ça,
quoi ton état d'esprit à la fin de ce podcast ?
Mon état d'esprit, moi ?
Mmh.
J'ai soif.
Ah, bah il a pas changé.
Bon bah la bise, hein, vu que c'est la fin.
On va se resservir un verre.
Allez,
ça
bye
ira
bye.
Mieux, Léo.
Bye bye.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.